Un micro dans la ville sur Marmite FM 88.4. Nouradine Agne.
Le masculin l'emporte sur le féminin. C'est la règle grammaticale que les écoliers français apprennent toutes et tous dès le plus jeune âge. Une règle contestée par Eliane Viennot, qui est professeure de littérature française et auteure de l'ouvrage « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Elle considère cette règle comme une construction des grammairiens pour masculiniser le français. Elle animait une conférence sur cette thématique dans le cadre des universités populaires d'Attaque 78, le mardi 28 mars dernier au Scarabée de la Verrière. On écoute la première partie du sujet consacré à cette conférence. Pour Eliane Viennot, la masculinisation du français débute dès le XVIIIe siècle, comme en témoigne pour elle cette citation du Journal des Dames de Madame de Beaumur qui, dès 1762, critique la remise en question par des grammairiens de l'usage de termes comme « autrice », « médecine » ou « peintresse ». Eliane Viennot.
Après une discussion dans le journal, voici ce qu'écrit la directrice du journal. Il semble que les hommes aient voulu nous ravir jusqu'aux noms qui nous sont propres. Je me propose donc, pour nous en venger, de féminiser tous les mots qui nous conviennent. Si nos bonnes anciennes ont, par politesse ou par crainte de ceux qui se disent nos maîtres et qui veulent décider de tout, souffert que les hommes réglassent la langue, je ne serai ni aussi polie, ni aussi soumise, à moins qu'ils ne s'accordent avec la raison qui s'offense d'entendre appeler une femme auteur. Autant faudrait-il dire « infâme », les puristes ne devraient pas être plus choqués de l'un que de l'autre. Alors, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est d'une part sa date. Vous voyez que les discussions et les querelles sur la question de la langue et d'histoire de masculin et de féminin dans la langue ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ne datent pas de la dernière génération de féministes de la fin du XXe siècle. Ils sont anciens. Ils ne sont pas aussi vieux que l'espèce humaine, mais ils sont anciens et ils sont récurrents. Deuxième chose, cette dame proteste au nom de la raison. Elle ne proteste pas au nom du féminisme. Elle dit qu'il n'y a pas de raison d'appeler une femme avec un nom masculin. Par ailleurs, elle voit que, parce que c'est une pratique courante dans son temps, que ce sont les hommes qui règlent la langue. Alors, ce n'est pas tous les hommes, mais en tout cas, elle dénonce cela. Les hommes règlent la langue et elle appelle ces gens-là des puristes. En fait, c'est le nom qu'on donne aux gendarmes de la langue depuis le début du XVIIe siècle. Vous avez peut-être des souvenirs de cela à l'école autour de Malherbe. On les appelait les puristes. En fait, ils n'ont pas juste fait que purifier, soi-disant, la langue. Ils l'ont aussi beaucoup masculinisé, ce dont on ne se rend pas bien compte à son époque. Et ce qu'elle propose aussi, c'est de, pour s'en venger, comme elle dit, elle propose de féminiser. Alors, féminiser, c'est encore un terme qu'on utilise beaucoup, qu'on entend dans les débats aujourd'hui sur la langue. Et on verra tout à l'heure toutes les règles ministérielles qui ont été passées, les décrets, qui proposent tous quelque chose à propos de la féminisation de la langue. Alors moi, je défends une thèse un peu différente, même assez différente. Je dis que la langue française n'a pas besoin d'être féminisée, c'est-à-dire transformée. Elle a juste besoin qu'on mette un terme à sa masculinisation. Parce que, historiquement, et je vais essayer de vous le montrer, la langue a été tordue, si on peut dire. Elle a été orientée différemment de son fonctionnement. On l'a empêchée, dans certains domaines, de fonctionner normalement, de fonctionner selon son logiciel, on dirait aujourd'hui. Et elle a été masculinisée. Alors, j'ai expliqué ceci dans deux petits livres que je me permets de vous montrer. C'est ceux qui seront donc, je crois, en vente tout à l'heure. Le premier, qui est paru il y a 2 ans, presque bientôt 3, qui s'appelle donc « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin » et qui fait un peu l'histoire de cette masculinisation. Et le deuxième que j'ai écrit avec des collègues linguistes, à la suite du succès, si je puis dire, de ce petit livre, bien que le succès ait été entièrement de bouche à oreille, qui est sur l'Académie française, puisque la plupart des choses que je vais dire en général convainquent, c'est une évidence, mais on a devant nous une institution qui s'oppose au fonctionnement normal de la langue française, qui est l'Académie. Et donc, il fallait démontrer non seulement ce que tout le monde sait, à savoir que c'est un repère de très vieux messieurs, très, très vieux messieurs, très, très à droite, mais surtout, c'est un repère d'incapables, de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire que c'est normal, il n'y a pas un linguiste parmi eux, il n'y a pas un historien de la langue, il y a juste des gens qui se croient des écrivains ou qui sont des écrivains. Pour certains, ce n'est pas vérifié vraiment. Si vous avez la curiosité d'aller voir qui sont les académiciens et les académiciennes aujourd'hui, on est parfois surpris. Alors, je vais résumer l'essentiel de ce que je vais vous raconter ce soir, qui ne peut pas évidemment être tout ce que j'ai expliqué dans ces deux livres. L'essentiel, c'est d'abord que le français est une langue à deux genres depuis la fin de l'Antiquité. Ensuite, que c'est une langue genrée selon le sexe depuis le latin, du moins pour les êtres animés. Ensuite, c'est une langue qui a été victime d'interventions allant contre son fonctionnement structurel, naturel, comme on veut, depuis le XVIIe siècle. Ensuite, je m'attarderai sur le fait que c'est une langue dont les locuteurs et les locutrices n'ont cessé de protester contre ces interventions ou alors d'ignorer les réformes. C'est une langue qu'on tente depuis les années 1980 de rendre à son fonctionnement naturel ou structurel. Et c'est une langue qu'on cherche aujourd'hui de plus en plus à doter de nouveaux moyens pour atteindre ce qu'on appelait dans les années 90 la parité linguistique. Alors, d'abord, une langue à deux genres depuis la fin de l'Antiquité. Il n'y a plus de neutre. Parfois, les gens se disent « Ah, mais ça serait si simple si on avait du neutre ». Bien, il n'y a plus de neutre en français. Depuis le bas latin, toutes les langues romanes ont perdu leur neutre. Il ne faut pas rêver, on ne reproduira pas, on ne réinstaurera pas du neutre dans le français, pas plus que dans l'espagnol, l'italien, etc. C'est pas possible, c'est trop compliqué. Et de toute façon, ça ne servirait pas à grand-chose parce que le neutre n'a jamais servi à parler des personnes. Et notre problème, c'est les personnes, ce n'est pas les objets. Masculiniser n'est pas neutraliser. Je dis cela parce que c'est une des thèses soutenues par notamment les académiciens, mais aussi parfois ça a été soutenu par des féministes qui disaient « mais c'est très simple, il suffit de tout mettre au masculin et ça va neutraliser ». Non, en français il y a du féminin ou du masculin, il faut choisir, il n'y a pas de langue neutre, enfin de mots neutres quand on parle une fois de plus des humains, c'est ça notre problème, pour le reste non plus. Alors je vous donne ici un exemple de la première déclaration de l'Académie française qui date de 84, qui à l'époque il n'y avait pas de site, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de tweet. Alors ça a été publicisé, cette déclaration, dans les journaux, dans les grands journaux. Le premier à avoir popularisé, oui, cette déclaration, c'est Alain Perfit. Voilà un grand grammairien devant l'éternel, comme tout le monde le sait. Vous voyez, ça fait partie de ces académiciens qui ont vraiment beaucoup de connaissances dans le domaine. Et alors voilà ce qu'il répète, enfin, et donc il explique ce qu'a dit l'Académie. En partie, il dit ceci qui m'intéresse à ce moment-là. En français, le masculin joue le même rôle que le neutre dans d'autres langues. Français, citoyen, téléspectateur désigne indifféremment les deux sexes. Alors, c'est absolument faux. Le neutre ne joue pas le rôle du masculin dans les autres langues. Encore une fois, le neutre est souvent utilisé pour parler des objets. En France, on a autant de mots féminins que de mots masculins qui parlent des objets. Et par ailleurs, la suite de la proposition, français, citoyen et téléspectateur désignent indifféremment les deux sexes. Eh bien, ça dépend de quoi on parle, puis ça dépend de quand, hein, parce que sinon, si citoyen, ça voulait dire citoyenne, les femmes auraient eu le droit de vote et d'être élues en même temps que les hommes. Elles ont bien attendu à peu près 150 ans. Donc, c'est faux. Et les téléspectateurs, peut-être qu'ils ne regardent pas exactement la même chose que les téléspectatrices, hélas, mais enfin, c'est comme ça. Donc, non, tous ces mots ne sont pas équivalents. Hein. Les masculins ne sont pas les équivalents des féminins. Et vous voyez qu'en sous un propos prétendument linguistique, en fait, on nous sert un propos politique qui consiste à dire, d'une part, à nier que les droits ne sont pas forcément les mêmes pour les uns et pour les autres, mais d'autre part à dire que si on ne parle pas des femmes, ce n'est pas grave, prétendument on les voit dans les masculins. D'autre part, ici dans, dans ces généralités, viser l'égalité du féminin et du masculin, c'est-à-dire cette parité linguistique, est beaucoup plus simple que d'essayer de rêver à refaire la langue, remettre du neutre, etc., etc. Parce que les phénomènes ont beau être importants, ils ne sont pas très nombreux, notamment pour la question des substantifs. La bagarre sur les substantifs est sur une trentaine de mots seulement, alors qu'il existe des centaines de mots qui s'appliquent aux hommes et aux femmes. Une langue genrée selon le sexe depuis le latin. Oui, on ne va pas parler ici, j'en parle un petit peu dans mon premier petit livre, le nom le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, on ne va pas parler des objets, des mots qui servent à désigner des objets, à savoir cette grande distinction que les linguistes font depuis des siècles déjà, mais que visiblement les académiciens n'ont toujours pas comprise, entre les inanimés et les animés. Les inanimés, c'est la table et le tableau. Pourquoi est-ce que la table est féminin et le tableau masculin ? C'est un sujet intéressant, mais c'est pas celui dont on va parler. C'est pas celui qui est porteur de problèmes politiques pour la démocratie et pour la société. Donc je ne vais pas en parler, ou pratiquement pas, sauf si dans le débat ça vient. Deuxième chose, parler des femmes au féminin et des hommes au masculin, c'est le fonctionnement structurel du latin et de toutes les langues romanes. Et c'est d'abord un phénomène oral. Si vous pensez à l'italien, à l'espagnol, on entend, quand on parle d'un garçon, le ragazzo, c'est autre chose que la ragazza. Et normalement, on doit, parce qu'une langue, c'est fait pour communiquer, et c'est fait pour être clair. Si on est dans la confusion, on est obligé de rajouter des autres mots. Hein. Donc, le génie de ces langues a fait qu'on entend quand c'est un féminin ou quand c'est un masculin. Il n'y a aucune distinction entre les activités, les métiers, les titres, les fonctions. Je dis cela parce que c'est la grande thèse défendue par l'Académie depuis une trentaine d'années, ou plus exactement depuis les années 98. Ils ont reculé au départ et disaient non, il y a des métiers, ils ne peuvent être qu'au masculin. Et depuis la fin des années 90, ils disent bon, d'accord, pour les métiers, on est d'accord, ok. Les métiers, il y a bien... un avocat, une avocate, ils le reconnaissent. Mais alors les fonctions, c'est autre chose. En fait, il n'y a aucune distinction linguistiquement parlant, même si du point de vue du sens, on peut parfois faire des distinctions. D'un point de vue linguistique, il n'y a aucune distinction entre ces différents types de mots. Et je vous en donne un exemple ici qui est sorti d'une grammaire qui date de 1632. Donc on est au début du XVIIe siècle et on est avant l'offensive dont je vais vous parler. Voici un grammairien donc, qui décrit comment fonctionne la langue française. Tous les noms de dignité et d'office appartenant à l'homme sont masculins, pape, évêque, roi, empereur, comte, conseiller, etc. En revanche, sont féminins les noms d'office et conditions appartenant aux femmes, reine, comtesse, duchesse, abbesse, nonne, conseillère, barbière, etc. Donc il s'agit bien ici, vous voyez, d'un mélange de métiers, de fonctions, de dignités, et tout ce qui revient aux femmes utilise des noms féminins, et ce qui revient aux hommes utilise des noms féminins. Il y en a qui observent quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure. Il n'y a aucune exception à cette genrisation, si on peut utiliser ce terme, le fait de distribuer des noms masculins aux hommes et des noms féminins aux femmes, excepté, alors ce n'est pas vraiment une exception, c'est simplement que ce ne sont pas des noms de métiers, de fonctions, de dignités, d'activités, etc. Ce sont des métaphores ou des métonymies. Par exemple, rien n'empêche de dire qu'un homme est une gourde, et bien entendu, on va, comme on sent la métaphore, comme on sent l'image, on va garder le genre du mot qui sert à le désigner. Gourde, c'est féminin, on va dire c'est une gourde. Rien n'empêche de dire qu'une femme est un mentor. Mentor, c'est dans notre culture un homme, donc une femme peut être un mentor, et on ne va pas dire une mentor. Ça, c'est assez simple à comprendre, parce que les images demeurent, on sent bien que ce sont des images. Parfois, on ne sent plus que ce sont des images. Par exemple, le fait qu'un homme s'appelle une sentinelle dans l'armée, hein, ça vient d'un italien, c'est toujours une métaphore, même si on ne le sait plus, ça vient de l'italien sentinella, qui veut dire petite montée, petite butte, donc personne qui voit, qui est au-dessus des autres, qui voit des choses qu'on ne voit pas. De même, le stappia, l'étrier, qui a donné estafette en italien, a donné estafette en français, Et donc, ben voilà, un homme est une estafette. Pourquoi ? Parce qu'on a gardé le genre du mot italien, ou plus exactement, puisque personne ne sait plus que ce sont des métaphores ou des métonymies ici. Pourquoi est-ce qu'on dit encore une sentinelle ou une estafette ? Parce que la désinence de ce mot le range dans des séries qui, pour nous, sont des séries féminines. Tous les mots qui se terminent en « ette » sont des mots féminins, donc on continue à dire « estafette » et tous les mots qui se terminent en « e-de-zelle » sont pour nous des féminins, donc on continue à dire comme ça. Mais en fait, rien n'empêcherait de mettre, quand on parle d'un homme, de dire « un sentinelle ». C'est d'ailleurs ce que proposait le dictionnaire de l'Académie de la fin du XVIIIe siècle, celui qui a été fait par les philosophes, il proposait de dire « un sentinelle ». Ils avaient raison, mais encore une fois, là, c'est la langue qui résiste. Comme on entend « elle », on va mettre ça au féminin. Et puis, pendant que j'y suis, je vous signale, parce que ça revient toujours dans les discussions, que rien n'empêche un homme d'être sage-femme, dans la mesure où, dans l'expression sage-femme, la femme, c'est celle-ci, et la personne sage, c'est celle qui sait faire, c'est l'autre. Donc, historiquement, évidemment, c'est d'abord des femmes qui ont été, c'est surtout des femmes et essentiellement des femmes qui ont été sage-femmes, mais personne ne. Aujourd'hui, c'est possible qu'un homme soit sage-femme. Alors, j'en arrive à vous expliquer que cette langue, qui fonctionne donc de manière très normale, a été victime d'interventions masculinistes, c'est-à-dire d'interventions qui allaient contre son fonctionnement pour dans certains domaines très précis. Alors d'abord, ces interventions, cette offensive masculine est datable, on la voit arriver au début du XVIIe siècle. Il y a quelques éléments qui datent d'avant, mais pas sous forme d'offensive, sous forme du fait que c'est surtout les hommes qui maîtrisaient le langage, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de discussion. En revanche, à partir du XVIIe siècle, il y a discussion et il y a querelle. Alors, à partir du XVIIe siècle, dans certains domaines, je vais d'abord regarder la question du pronom attribut « là ». Alors, voici une grammaire du tout début du XVIIe siècle, avant même la création de l'Académie. Ce monsieur, Charles Maupas, dit « le, la, les sont nominatifs souvent », c'est-à-dire qu'ils se rapportent à des gens, comme « sont ceux-là vos enfants ? Oui, ceux les sont ». On passe un petit peu et on arrive à « quelquefois, le est employé neutralement, comme signifiant « id illud », c'est-à-dire « ceci » en latin. Comme « trouvez-vous cette femme belle ?» Si elle ne l'est pas, elle le pense être. Alors, deux choses à dire ici. L'idée du neutre, on la voit commencer là, cette explication, cette fausse explication, comme quoi on pourrait utiliser des masculins en français sous prétexte que c'était des neutres en latin. Oui, sauf qu'il n'y a plus de neutre en français. Donc, en français, il faut bien choisir. Et les femmes de l'époque disent « elle la pense être hein, ». Tout simplement, puisque ça se rapporte à une femme, on dit « elle la pensait ». Si on parle d'un homme, on dit « il le pensait ». Vous voyez également que la blague est sexiste. Enfin, l'exemple est sexiste. Il ne se présente pas comme ça, bien entendu. Et ça a l'air d'être un propos sérieux, ça a l'air d'être un propos savant, mais en réalité, très souvent dans les grammaires de cette époque, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, mais ça vaudrait le coup de regarder, on a des exemples qui, subliminalement, je dirais, nous livrent des messages sexistes. Cette femme se croit belle, haha, elle ne l'est pas. Voici un peu plus tard, donc 47, Vaugelas, un académicien, grand grammairien, dit « c'est une faute que font presque toutes les femmes de Paris et de la cour. Par exemple, si je dis à une femme « quand je suis malade, j'aime avoir compagnie », elle me répond « et moi, quand je la suis, je suis bien aise de ne voir personne ». Je dis que c'est une faute de dire « quand je la suis » et qu'il faut dire « quand je le suis ». La raison de cela est que ce « le » qu'il faut dire ne se rapporte pas à la personne, car en ce cas-là, il est certain qu'une femme aurait raison de parler ainsi, mais il se rapporte à la chose. Alors pourquoi la chose devrait-elle être masculine ? C'est une question à 1000 euros. Pour eux, c'est une évidence. On est toujours dans l'idée du il faut trouver un mot neutre, et ce mot neutre qui n'existe pas, il ne propose pas d'en inventer un, hein, il propose de prendre le pronom masculin. Néanmoins, poursuivons-je là, puisque toutes les femmes au lieu où l'on parle bien disent « là » et non pas « le », peut-être que l'usage l'emportera sur la raison et que ce ne sera plus une faute. Alors ça, c'est, on reconnaît la grande sagesse de Vaugelas, qui pense que c'est l'usage qui l'emporte, Hein. Mais il n'empêche que ça fait des siècles qu'on parle comme ça en France et que là, ils sont en train d'ouvrir une brèche pour faire reculer ce terme « le ». Et si on arrive, on prend du temps, là, on arrive à la fin du XXe siècle avec le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Maurice Druon, qui dit « Il y a belle lurette que la règle est de dire « cette femme est belle et le restera ». Voici près de deux siècles qu'on ne rencontre plus la forme déjà peu usitée jadis et la restera ». Ce ne serait vraiment pas faire preuve de modernité que de nous obliger à dire « cette ministre est ignorante et la restera ». Alors, on est toujours dans la blague sexiste, bien entendu, ça l'amuse toujours, mais on est aussi, pour la petite histoire, dans le grand moment de la bagarre contre Madame la ministre, qui a eu lieu dans les années, à la fin des années 90, lorsque les ministres de Jospin, Guigou, Aubry, etc., un certain nombre de femmes ont demandé officiellement qu'on les appelle Madame la ministre, ce qui a soulevé un tollé du côté de l'Académie et d'un certain nombre de journalistes qui les suivaient. Et pendant deux ans, ils ont bagarré contre la ministre. Alors, on trouve ici le mélange hein, de lutte contre le pronom « la » et contre « la ministre ». J'en passe, je laisse tomber ce pronom. J'arrive à un autre domaine, celui qui est en général le plus connu, celui des activités et bien entendu des activités nobles. Il ne s'agit pas du tout, personne n'a jamais mouillé la chemise pour Madame le crémier hein, ou Madame le boulanger. C'est les activités que les hommes estiment leur monopole.
Vous pouvez retrouver ce sujet dès la semaine prochaine en podcast sur le site de la radio marmitefm.canalblog.com. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de l'intervention d'Eliane Viennot.
C'était Un micro dans la ville, présenté par Nouradine Agne.